Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire sur le web animé à l'UTC. On poursuit notre session de présentation des étudiants et des étudiantes donc de l'UTC qui a commencé à 14h30 aujourd'hui par l'exposé de 4 étudiantes et étudiants qui ont présenté leur travail sur le thème des intelligences artificielles génératives et de ses enjeux sur le droit d'auteur et la culture libre. Alors pour rappel, les étudiants de WE1 réalisent chaque semestre un projet en groupe qui consiste à mettre en ligne un dossier thématique autour d'une problématique technologique reliée au web et qui est composé d'articles et puis de fiches de lecture également. Donc on va continuer maintenant, je suis en studio avec Audrey, Nina et William. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème de la communication scientifique sur les médias sociaux et en particulier sur Mastodon. Alors on va vous écouter nous présenter un exposé à trois voix sur ce sujet-là. Les étudiants du TD sont donc du cours sont toujours aussi à l'écoute de Graphite et vous poseront quelques questions à l'écrit sur Mattermost en parallèle. Alors on démarre si vous êtes prêts. Audrey, tu commences votre intervention par nous parler de communication sur les médias sociaux. Si tu es prête.
Oui.
C'est bon. Allez, c'est parti.
Bonjour à tous. Donc Mastodon est un média social émergent qui devient une plateforme propice à la communication scientifique. Il est décentralisé, open source et à but non lucratif. Cela permet d'avoir un fil d'actualité qui correspond à chaque utilisateur, créant ainsi une communauté avec les mêmes centres d'intérêt. Comment les médias sociaux décentralisés, comme Mastodon, ont pu assurer une meilleure communication et collaboration entre les scientifiques? Tout d'abord, je vais aborder la différence entre la communication sur Twitter et sur Mastodon, puis Nina traitera de la communication scientifique sur les médias sociaux. Enfin, William se penchera sur le fait que Mastodon est une plateforme conviviale et sûre pour la communication scientifique et la collaboration à l'échelle mondiale. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les utilisateurs de l'application se préoccupent de plus en plus de son avenir, en particulier concernant la liberté d'expression ou les fake news. D'autant plus que Elon Musk a procédé au licenciement de la moitié des employés et a posé un ultimatum aux autres aboutissant à la démission d'une partie d'entre eux. Certains utilisateurs cherchent alors une alternative à Twitter. On remarque une hausse des recherches sur Google concernant des applications alternatives à Twitter après cet événement, dans l'article « Flocking to Mastodon, Tracking the Great Twitter Migration ». Parmi ces alternatives se trouve Mastodon, qui est une plateforme qui pourrait correspondre aux convictions recherchées. Selon le même article, entre le 26 octobre et le 21 novembre 2022, 2 990 948 ont été postés par 1 024 577 personnes concernant l'abandon de Twitter, avec par exemple le hashtag Mastodon Migration ou encore le hashtag Bye Bye Twitter ou hashtag RIP Twitter. Cette décision de migrer d'un média social vers un autre a pu avoir des conséquences sur les habitudes qu'avaient les utilisateurs. Ceux qui ont migré vers Mastodon mais qui n'ont pas supprimé leur compte Twitter publient un contenu totalement différent d'un média social à un autre. Selon l'article, cela concerne 84,45% des utilisateurs ayant migré sur Mastodon. Sur Twitter, les publications couvrent des sujets d'actualité plus généraux, alors que sur Mastodon, elles sont plus ciblées sur des sujets précis. Ainsi, la migration vers Mastodon a permis aux utilisateurs de dissocier leur centre d'intérêt. Pour illustrer mes propos, voici un extrait d'un podcast de Maintenant Vous Savez, intitulé « Qu'est-ce que Mastodon qui pourrait remplacer Twitter ?», publié le 26 novembre 2022.
Mais alors, quel intérêt de changer de plateforme ?
Tout est une question de valeur et de conviction. C'est d'ailleurs ces raisons qui ont poussé Eugène Rochko à créer Mastodon, comme il l'explique dans un communiqué publié en avril 2022. Alors que le deal entre Elon Musk et Twitter est en discussion.
Ce qui est amusant, c'est que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux décentralisés en 2016 et qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, c'était la rumeur selon laquelle Twitter, la plateforme que j'utilisais quotidiennement depuis des années, pourrait être vendue à un autre milliardaire controversé.
Ainsi, c'est par désaccord avec les décisions du nouveau patron que l'on peut choisir de quitter Twitter pour Mastodon. Une organisation à but non lucratif. Dans ce communiqué, Eugène Rochko présente Mastodon comme un réseau social décentralisé. Cela veut dire que les contenus ne sont pas accessibles via une seule adresse web, mais divisés en serveurs thématiques.
L'extrait met également en lumière l'aspect de décentralisation de Mastodon, aspect que je vais développer maintenant. Comme expliqué dans l'extrait du podcast, Mastodon est une plateforme décentralisée. Un média social décentralisé se caractérise par l'absence d'une entité centrale de contrôle et la présence de multiples instances dans le cas de Mastodon. Une instance est une réplique d'un logiciel libre qui est installée sur un serveur géré par un individu ou une organisation. Mastodon met en avant son caractère décentralisé en soulignant le fait que chaque instance du média social doit être indépendante dans la mesure où le type de communication proposé sur Mastodon leur semble trop important pour être centralisé. La migration de Twitter vers Mastodon, c'est en fait soudainement la répartition des nouveaux utilisateurs sur les différentes instances pourrait alors avoir un impact sur la décentralisation de la plateforme. Il y a un phénomène de centralisation avec la majorité des utilisateurs qui se réunissent dans une même instance. Toutefois, selon l'article, 96% des utilisateurs avaient rejoint 25% des plus grandes instances de Mastodon, en particulier sur Mastodon Social. Une des hypothèses soulevées à ce phénomène était que les nouveaux utilisateurs de Mastodon voulaient se construire une communauté en rejoignant des instances contenant plusieurs personnes. Cependant, ils ont découvert que d'un côté, les grandes instances contiennent plus de personnes, mais d'un autre côté, les plus petites instances contiennent des utilisateurs plus actifs, donc sont plus favorables pour se créer une communauté ayant de même centre d'intérêt. Garder un aspect décentralisé sur Mastodon est important puisque cela présente de nombreux avantages. Par exemple, la protection des données, le stockage des informations étant décentralisé. Cependant, il faut tenir compte des désavantages possibles pouvant survenir comme la modération, car les règles devant être suivies sur une instance sont mises en place par des modérateurs qui pourraient avoir eux-mêmes un comportement dangereux et toxique. Il est important de noter que la communication scientifique et la communication générale sur les médias sociaux présentent des caractéristiques distinctes, ce que va vous expliquer Nina dans la prochaine partie.
Merci Audrey pour ce premier comparatif de la communication sur Mastodon versus sur Twitter, hein, comment les choses sont différentes sur ces deux médias sociaux-là. Alors pour parler de Mastodon en particulier, tu as utilisé le terme d'instance, tu as bien défini le fait qu'il s'agissait d'une copie d'un logiciel libre qu'on va installer sur un serveur web qui va être géré par un individu, un collectif, de façon indépendante. Et puis voilà, tu nous disais que chaque installation comme ça du logiciel libre Mastodon sur un serveur web, ça va mettre en place un nouveau site auquel on accède via son navigateur web, comme une nouvelle maison dans le village un petit peu, hein, si on veut le voir comme ça. Et donc concrètement, juste pour préciser, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, est-ce que ce fonctionnement décentralisé change quelque chose dans notre usage des médias sociaux? Et puis aussi, est-ce que quand on choisit un de ces sites Mastodon pour communiquer, voilà, est-ce que ça signifie qu'on peut communiquer que sur ce site-là?
La première grande différence par rapport à Twitter, qui est son équivalent, c'est que toutes les informations sur Twitter, elles sont regroupées sur une même page, alors que là, si on veut chercher des informations plus distinctes, on va rejoindre telle ou telle instance. Et donc déjà, ça fait un partage justement des informations auxquelles on a. Et également, en fonction des règles qui sont imposées sur les instances, je crois qu'il y en a qui sont privées et d'autres publiques, donc on peut ou non y accéder. Et donc ça fait déjà une première censure de est-ce qu'on peut avoir accès à un article, enfin pas un article, mais à des données, des publications d'une personne. Et les personnes peuvent, comme le réseau social, le média social est fédéré, c'est comme normalement va plus développer William, d'accord. Et comme il est fédéré, on peut quand même communiquer entre personnes, même si on ne rejoint pas la même instance. Et en fonction des paramètres qu'on donne à la publication qu'on fait, elle peut être soit vue seulement par les abonnés, soit seulement dans l'instance, ou alors publiquement.
D'accord, d'accord. Mais effectivement, cet aspect de fédération que tu mentionnes là est important, parce que sinon, on pourrait comprendre tout ce phénomène de centralisation que tu expliquais juste avant, le fait qu'on rejoigne toutes et tous, quand on découvre Mastodon, l'instance où il y a le plus de monde possible, alors qu'en fait, quand on accède à une instance, eh bien, on peut accéder au reste du réseau. Très bien, merci Nina. Alors, il y a une question qui arrive sur Mattermost. C'est Antoine qui se demande, est-ce qu'il serait possible qu'un milliardaire achète toutes les instances de Mastodon afin de contrôler l'ensemble du réseau? Est-ce qu'il pourrait le faire? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire ça?
Normalement, l'aspect décentralisé de Mastodon empêche ce phénomène, puisqu'en fait, justement, il y a déjà... c'est pas tout sur une seule base comme Twitter qui est achetée par Elon Musk. Et donc, on ne peut pas vraiment acheter plusieurs petites instances comme ça. Et surtout que la création de Mastodon, elle a été faite justement pour pallier à ce phénomène de rachat des réseaux sociaux par des milliardaires. Et donc, ça irait totalement à l'encontre des valeurs du créateur. Donc, je ne pense pas qu'il voudrait vendre son média social.
Oui, oui, après quel intérêt à acheter un média social où aussi on ne connecte pas les données personnelles. Effectivement, alors, il y a plusieurs questions qui arrivent et qui seront utiles aussi pour la suite de votre exposé. Comme tu le disais, Audrey, William, tu vas parler de cet aspect de fédération de Mastodon. Mais on va aborder donc la seconde dimension de votre exposé qui est la communication scientifique. Nina, tu vas nous parler donc de la communication scientifique sur les médias sociaux.
Donc bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais expliquer quelques termes. Donc le premier terme est le taux de citation. C'est un taux qui représente le nombre de fois où l'article est cité dans d'autres articles. Et le score d'attention, quant à lui, est basé sur trois critères. Le nombre de mentions que l'article obtient, d'où vient la mention d'un blog, d'un tweet ou d'un journal, et qui fait cette mention. Donc les scientifiques, pour promouvoir et faire de la communication sur leurs recherches, peuvent utiliser différents moyens, comme les conférences, les médias, les réseaux sociaux ou encore la presse papier. Le moyen que nous allons étudier est la communication des recherches sur les médias sociaux. Les médias sociaux permettent d'inclure de nombreuses personnes, telles que les non-scientifiques, les scientifiques et les médias. Ils permettent donc de rassembler de diverses opinions. Pour commencer, nous allons prendre l'exemple d'un article nommé « Tweet Success, Scientific Communication Correlates with Increased Citation in Ecology and Conversation » réalisé par Lem Clinton, Gilbert et Ford. Il développe l'exemple de la plateforme Twitter et les publications sur les domaines de l'écologie et la conservation. Donc, en effet, les scientifiques ont remarqué que environ 40% des personnes suivant donc l'écologie et la conservation ne sont pas des scientifiques. Cela montre que la communication scientifique sur les médias sociaux permet aux articles d'avoir plus de visibilité et de toucher plus de monde. Les analyses faites dans l'article cité précédemment ont montré que les articles ayant eu de la communication donc sur les médias sociaux ont eu aussi un score d'attention plus élevé. L'article est donc plus vu, obtient plus de mentions et peut avoir un réel impact dans le domaine scientifique. Donc les scientifiques sans utiliser les médias sociaux ont des difficultés pour communiquer. C'est ce qui va être illustré par l'extrait qui va suivre de George Chen dans une vidéo YouTube donc il y a un text and talk nommé The Science Gap.
The gap that I do want to talk to you about today is sort of this gap between the people who are trying to come up with answers to these questions and the general public. So right now, if you're a scientist or a researcher, the only way, the main way that you have for communicating what you do to the public, basically is this following things have to happen. First of all, you have to write a long and esoteric journal paper. And then your university maybe will issue out a press release about it. And then maybe some reporter somewhere will actually catch this press release and maybe they'll get interested about it and maybe they'll talk to their editor about it and then maybe they'll write a good story about it and maybe they'll do a good job of it and then maybe they'll actually get published somewhere. But it won't actually sort of reach the public really unless the media, general media picks it up or the internet picks it up and then maybe it'll actually reach the public and then maybe somebody will actually read it and understand it. Yeah, so that seems a little bit suboptimal to me.
Donc les médias sociaux permettent aussi une communication intra-scientifique. En effet, d'après l'article de Simon Pollens et Kathleen Rivers, nommé Social Media and the New York of Scientific Communication during the COVID-19 pandemic, paru le 12 mai 2020 dans Clinical Infectious Diseases, les médias sociaux qui ont fait une émergence de la communication, non, les médias sociaux qui ont fait émerger la communication scientifique, notamment donc la plateforme Twitter. Comme le montre la citation que traduite, nous pensons que Twitter a joué un rôle fondamental, mais aussi souvent précaire, en permettant une communication mondiale en temps réel entre les scientifiques pendant l'épidémie du Covid-19, à une échelle jamais vue auparavant. Donc le virus inconnu a obligé les scientifiques à devoir accélérer leurs recherches. Ils ont donc décidé d'utiliser des médias sociaux pour pouvoir partager leurs recherches avec leurs pairs. En effet, durant cette période de crise mondiale, les scientifiques ont été lourdement sollicités et ont dû agir le plus rapidement possible. Dès le début, ils ont partagé leurs trouvailles et permis aux scientifiques du monde entier de pouvoir chercher avec eux. C'est grâce à cela qu'ont pu mettre en place des protocoles, des recherches et de plus en plus de choses. Et donc, on a pu trouver un vaccin très rapidement. Et donc, en effet, d'habitude, les protocoles et les vaccins mettent plusieurs années à être développés et commercialisés. Donc la communication scientifique sur les médias sociaux est donc une manière efficace de rassembler le plus de monde et de faire de nombreuses découvertes.
Merci Nina, et en effet comme tu l'expliquais en démarrant ton exposé, à propos de recherche sur l'écologie par exemple, la diffusion de publications sur Twitter, hein, tu disais en particulier, ça fait un espèce de coup de projecteur médiatique, hein, ça permet l'utilité du réseau à ce moment-là, du média social à ce moment-là, ça va être d'amplifier la visibilité, la diffusion d'un article scientifique, de faire un petit peu gonfler les compteurs d'audience, et puis d'avoir l'article qui va être relayé, et donc comme tu disais, davantage si comme référence dans un domaine de recherche. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors j'ai des questions sur Mattermost qui veulent se poser la question de savoir si cet effet-là peut être aussi efficace sur Mastodon. Alors il y a une question particulière, est-ce qu'on peut trouver autant de publications sur un sujet sur Mastodon que sur Twitter? Alors là, peut-être j'anticipe un peu sur ta partie, William, mais Nina, je ne sais pas si tu as déjà quelques éléments là-dessus, à savoir est-ce que finalement on a autant de diversité de publications, de diffusion comme ça sur Mastodon que sur Twitter. Tu veux plutôt parler de Twitter?
Alors bien sûr, j'y ai songé. Et donc comme l'a dit Audrey, donc sur Mastodon, c'est plutôt des instances avec des sujets précis, comparé à Twitter où on va plutôt tout trouver sur une même page et on va voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et du coup sur Mastodon, donc on va poster sur des instances et donc ça va pas être une aussi grosse diversité que l'on peut trouver sur Twitter. Donc il va y avoir moins de visibilité. Et du coup, ça va être plus des sujets précis et des personnes qui ont envie de voir les articles en question et les recherches.
D'accord, donc peut-être après différentes pratiques aussi hein, entre Twitter et Mastodon, peut-être qu'on ne va pas faire la même chose, tu vas nous en parler, je vois toi sur William, tu es prêt à démarrer la troisième partie, mais juste, je vois une question d'Antoine qui arrive, Antoine qui pose beaucoup de questions, Antoine, utiliser un réseau social pour partager des recherches scientifiques ne présente-t-il pas un risque vis-à-vis de la désinformation? Oui, quand on aborde certains sujets en science, effectivement, partager des publications, ça peut mener à des discussions sur Twitter qui peuvent partir dans différentes directions. Est-ce que ça présente donc un risque de désinformation? Quel est ce risque-là? Faut-il le prendre, etc.? Est-ce que tu aurais quelques éléments à ajouter là-dessus?
Alors oui, bien sûr, ça présente un risque. On a pu aussi donc le voir pendant la pandémie du Covid-19, où il y a eu beaucoup de désinformation, de pseudo-recherches scientifiques ou d'éléments scientifiques qui avaient été prouvés, qui n'étaient pas forcément véridiques. Et contre cela, on connaît déjà des techniques de regarder les sources, d'où viennent les éléments dont on regarde. Et donc oui, ça présente forcément
un risque. Mais tu proposes déjà des formes de solutions, de dire il faut après apprendre les bonnes pratiques, de savoir croiser, vérifier les sources. Là, après, c'est tout un travail à faire, mais on peut dire que ce risque mérite d'être pris si on connaît, si on met en place des bonnes pratiques pour mener une discussion scientifique en vérifiant les sources qui sont mises sous nos yeux, effectivement. Merci Nina pour cette seconde partie. Alors, on arrive déjà à la troisième partie de l'exposé avec William. William, tu vas nous parler on va revenir sur Mastodon, donc tu vas nous dire que c'est une alternative intéressante pour la communication scientifique, a priori. Tu es prêt, William?
Oui, je suis prêt. Donc, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi Mastodon est une plateforme conviviale et sûre pour la communication scientifique et la collaboration à l'échelle mondiale. Tout d'abord, je vais vous avancer en quoi Mastodon est une alternative conviviale. Et puis après, en un deuxième temps, je vais m'attarder sur Mastodon favorisant la collaboration et la diffusion des connaissances scientifiques. Donc commençons. La communication joue un rôle essentiel dans le monde scientifique, comme on le sait tous, et donc, comme vient de le citer Nina, permettant d'échanger des idées et de collaborer sur des projets de recherche. Les réseaux sociaux ont certes rendu la communication scientifique plus accessible, mais les grandes plateformes centralisées comme Twitter ont également posé des problèmes de sécurité et de censure. C'est là que Mastodon entre en jeu en offrant une alternative conviviale et sûre pour la communication scientifique. En effet, Mastodon se distingue en tant que plateforme de médias sociaux décentralisés, qui n'est pas contrôlée par une entreprise unique, mais plutôt gérée par une communauté de développeurs et d'administrateurs. Cette décentralisation confère aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience sur la plateforme, réduisant ainsi les risques de censure et de surveillance. Les instances Mastodon, qui sont des communautés spécifiques sur la plateforme, sont souvent gérées par des administrateurs, qui applique des règles de modération adaptées à cette communauté. Cela garantit un environnement convivial et respectueux pour la communication scientifique. Par exemple, on peut parler de l'instance scolar.social, qui est une communauté Mastodon dédiée à la communication scientifique. Elle attire en effet des chercheurs et des universitaires du monde entier, leur offrant un espace pour partager leurs travaux, discuter de leurs recherches et interagir avec d'autres scientifiques partageant les mêmes intérêts. De même, l'instance Paléotoute est axée sur la communication scientifique dans le domaine de la paléontologie. Ces instances spécialisées permettent donc aux scientifiques de s'engager dans des discussions plus ciblées et de trouver des collègues partageant les mêmes intérêts, favorisant ainsi des collaborations fructueuses. Ainsi, avant de passer à ma deuxième partie, voici une audio extraite d'une vidéo YouTube de la chaîne de Mastodon expliquant le système d'instances sur Mastodon.
Because of this, all instances are owned, operated, and moderated by the community that creates them, and not some large corporation which tracks your data to sell to advertisers. In most cases, Mastodon instances are crowdfunded, not financed. But how do these instances communicate with one another? While users within an instance can, of course, follow each other, they can also decide to follow users within other instances. So while each instance of Mastodon is privately operated, their users can still communicate with members from other servers seamlessly. Of course, communities who want to remain private don't have to communicate with other servers. This is in the hands of its users. Mastodon also offers effective anti-abuse tools to help moderate instances as users see fit. Ultimately, Mastodon is a social network which puts the user first. Unlike traditional social media, Mastodon can't go bankrupt, it can't be sold, and it can't be completely blocked by governments.
Donc voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui nous explique en quoi Mastodon favorise la collaboration et la diffusion des connaissances scientifiques. Donc, en plus d'offrir une alternative conviviale pour la communication scientifique, Mastodon facilite également la collaboration et la diffusion des connaissances scientifiques. Les scientifiques peuvent utiliser cette plateforme pour partager des mises à jour de leurs recherches, discuter de leurs travaux et interagir avec d'autres scientifiques, ce qui permet de diffuser des connaissances de manière plus rapide et efficace. Par exemple, l'instance chemists.social est une communauté Mastodon dédiée aux chimistes du monde entier. Les chercheurs peuvent y partager leurs découvertes, discuter de leurs résultats et échanger des idées avec d'autres chimistes, favorisant ainsi la collaboration dans ce domaine spécifique. De même, l'instance OpenBio est axée sur la biologie ouverte, encourageant les échanges entre biologistes et la diffusion des connaissances dans ce domaine. De plus, Mastodon a permis donc de briser les barrières géographiques dans la communication scientifique. Par cela, les scientifiques peuvent désormais facilement communiquer avec des collègues du monde entier, échanger des idées et collaborer sur des projets de recherche. Cette ouverture de la communication scientifique à l'échelle mondiale a le potentiel de stimuler la recherche collaborative et la résolution de problèmes mondiaux. Mastodon offre une plateforme donc qui permet une collaboration et une communication internationale entre les scientifiques sans intervention extérieure qui pourrait causer des problèmes, comme cela peut être le cas sur Twitter. Cependant, il est important de noter que bien que Mastodon présente un potentiel prometteur pour la communication scientifique, il n'est pas encore pleinement capable de répondre aux demandes spécifiques des utilisateurs. Victor Venema, dans son article « Microblogging for scientists without nasties and surveillance », souligne que Mastodon doit continuer à se développer pour offrir une communication scientifique adéquate aux demandes assez spécifiques des utilisateurs. Néanmoins, les scientifiques doivent profiter de cette opportunité pour communiquer de manière plus efficace, collaborer et résoudre les défis de notre temps. En conclusion et pour finir, Mastodon a révolutionné la communication scientifique en offrant une alternative décentralisée, sécurisée et propice à la collaboration. Cette plateforme a permis une diffusion rapide des connaissances à travers des échanges entre scientifiques du monde entier sans les contraintes de censure, en favorisant les discussions spécialisées au sein de communautés dédiées. Mastodon stimule la recherche scientifique, il surmonte les barrières géographiques en permettant aux chercheurs de partager leurs travaux et d'interagir avec leurs pairs internationaux. Bien que des améliorations soient encore nécessaires, Mastodon représente une plateforme prometteuse pour une communication scientifique ouverte, fluide et efficace. Merci.
Merci à toi, William, pour cette présentation donc de eh bien, tout le potentiel qu'a Mastodon pour constituer voilà, un média social de communication scientifique. Alors, tu nous parlais de Victor Venema, qui est effectivement un co-administrateur de l'instance FediScience.org aussi. Hein. Il a écrit cet article dont tu parlais. Et puis, il a aussi ouvert une instance qui a à peu près 2000 personnes pour parler notamment de, voilà, de sciences du climat, etc. Alors, tu disais, ça donne envie, hein, comment tu nous présentes Mastodon pour les scientifiques. Tu nous disais qu'il y avait quelques demandes spécifiques des utilisateurs, quelques améliorations qui manquaient encore. Évidemment, c'est pas parfait du tout. Alors, est-ce que tu aurais en tête quelque chose qui manque pour satisfaire les personnes qui veulent parler de science sur un média social?
En gros, par cela, je voulais plus dire au niveau général, plus que scientifique, parce qu'en gros, comme l'a dit Audrey, chaque instance possède donc ses propres règles, peut être privée et peut être publique. Pas comme, par exemple, sur Twitter, sur un réseau social centralisé où il y a des règles qu'il faut suivre et tout. Donc parfois, il y aura certaines instances qui pourraient être inhumaines ou irrespectueuses, donc, et avoir leurs propres règles qui pourraient ne pas respecter donc les droits humains, et cela pourrait causer problème à certaines personnes qui vont subir une certaine discrimination, un certain irrespect, comme par exemple du racisme ou même du sexisme, parce que cela est vraiment bien évident au niveau des médias sociaux, comme on le sait déjà, et surtout le cyberharcèlement. Donc oui, je pense que voilà, quelques modifications pourraient être peut-être au niveau de cela, peut-être avoir des règles générales avant de lancer la plateforme et puis après permettre aux instances, en utilisant ces règles générales, de vraiment avoir leurs règles spécifiques, quoi.
Ouais, d'accord, effectivement. Et puis Audrey, tu parlais de la modération au tout début, hein, quand tu as présenté Mastodon, tu disais que oui, il pouvait y avoir de la modération qui peut être toxique sur certaines instances. Alors l'aspect décentralisé, le fait que tout le monde ne soit pas sur la même instance, comme vous le disiez, ça permet de dire qu'effectivement il y aura des instances Mastodon sur lesquelles une modération ne nous conviendra pas du tout, mais on a la liberté d'en choisir une autre. Alors je voudrais vous poser la question à tous les trois. Hein. À ce moment-là, on a plusieurs questions en fait sur Mattermost d'étudiantes qui questionnent un petit peu l'affaire. Parce que, bon, vous nous vendez bien Mastodon pour la communication scientifique, mais au fond, en étant si sûr, alors notamment par rapport à l'aspect centralisé des instances de Mastodon, plusieurs questions, en fait, relèvent de, voilà, de la protection des données personnelles. Est-ce que les données personnelles, finalement, dans un modèle décentralisé comme cela, ne sont pas moins protégées que sur un système centralisé, où, voilà, c'est même si c'est géré par une entreprise, on a plus d'argent pour mettre en œuvre des protections plus robustes, on a des modérateurs, des modératrices professionnelles, etc. Comment traiter cette question-là? C'est une vraie question. Est-ce que finalement, la sécurité est plus renforcée sur Mastodon que sur un média social centralisé comme Twitter?
Déjà sur Mastodon, en fait, la plus grande différence entre Mastodon et Twitter, c'est aussi la collecte des données personnelles, donc pour les pubs qu'il y a par rapport à Twitter. Là, Mastodon est totalement... sans collecte des données. Mais un des problèmes qui va avec les données personnelles et l'aspect décentralisé, c'est aussi le fait que, par exemple, justement, le fait que si on décide qu'un message, qu'une publication va pouvoir être vue dans, soit par d'autres serveurs, si on le met en public, on ne sait pas ce que les gens vont faire des serveurs sur lesquels le message apparaît. Et donc, en fonction de ça, les données vont être pas forcément vraiment bien protégées, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui va en être finalement. Si c'est des données sensibles ou quoi que ce soit, il faut faire attention. Et donc ça, c'est un problème qui va avec la décentralisation et qui ne peut pas vraiment être enlevé, puisqu'on n'a pas de pied sur qu'est-ce que les autres personnes vont faire, les autres serveurs...
Oui, tu parlais de la fédération, comme quoi quand on va publier un message, par exemple sur l'instance dans laquelle on est, notre message va être diffusé sur d'autres instances. Donc effectivement, il y a un transfert de données à d'autres instances, mais après les données de connexion, on va dire l'adresse IP, les choses plus personnelles comme ça restent au niveau de l'instance. Et là, ce qui peut quand même nous protéger, c'est le fait que le logiciel au fond, la machine de Mastodon, est codé en, c'est du code libre, c'est donc accessible et donc il peut être audité et on peut voir aussi comment ça fonctionne et comment sont protégées les données personnelles. Ça peut être un certain point. Alors il y avait aussi une question à propos qui utilise le fait que qui mobilise cet aspect libre du code de Mastodon pour notamment essayer de développer les fonctionnalités manquantes ou qui seraient plus intéressantes pour la communication scientifique. On pourrait imaginer, des fonctionnalités pour améliorer la visibilité des graphiques que l'on veut partager, faire des choses interactives, je ne sais pas. Mais le fait que le code de Mastodon soit libre, ça peut permettre éventuellement de modifier ces fonctionnalités-là. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce moment-là? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions que je puisse vous poser maintenant. J'avais en fait plein d'autres choses en tête, mais si, est-ce que une des questions pour comparer la communication entre Twitter et entre Mastodon, ça peut être des pratiques différentes. Est-ce que sur Twitter, comme tu le présentais Nina, on va peut-être avoir plutôt une communication du style vertical où on va avoir une publication d'un article des scientifiques qui vont présenter leurs travaux, mais est-ce que sur Twitter on peut avoir la possibilité vraiment d'avoir une discussion un petit peu horizontale entre les scientifiques, les non-scientifiques, avec des non-scientifiques qui vont poser des questions aux scientifiques qui vont leur répondre? Est-ce que ça se passe comme ça sur Twitter, ou est-ce que on est plutôt sur un mode voilà, on diffuse des connaissances et puis après il n'y a pas tellement de discussion? Voilà, je me demande s'il y a une différence entre les deux.
Je pense que ça dépend surtout de quel va être le type de publication sur Twitter, parce qu'on voit que si par exemple les mutus d'une personne ce va être que des scientifiques, dans ce cas les commentaires ou les retweets vont être vraiment en rapport, alors que si c'est quelque chose qui va devenir un peu viral sur le fil d'actualité, puisqu'il y a eu en plus un nouvel algorithme, et que tout le monde va donner un peu ses avis, etc. Sur Twitter, ça part souvent un petit peu assez rapidement. Et donc ça va être assez compliqué d'avoir vraiment une conversation, puisque sur Twitter, les gens veulent vraiment juste leur opinion sont carrées. Et c'est un peu plus difficile d'avoir des nuances. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué d'essayer d'exposer différents points de vue par rapport à Mastodon. Si une instance est rejointe par des personnes voulant s'intéresser à un certain domaine, dans ce cas, les personnes vont justement vouloir connaître de nouvelles fonctionnalités d'une technologie, de nouvelles perspectives. Alors que sur Twitter, on n'est pas forcément sûr de qu'est-ce qu'on va voir. Et là, il y a une nouvelle information, on va donner son avis, alors que vraiment, il n'y a peut-être pas de recherche derrière, de volonté de s'instruire.
D'accord. Donc pour les utilisateurs, les démarches sont différentes entre les deux médias sociaux. Et tu nous parlais aussi de l'algorithme. C'était une question, Lucas, qui se demandait si l'algorithme de ces applications ne risque pas de mettre en avant un article biaisé qui n'est pas nécessairement celui d'un scientifique. Imaginons s'il y a une polémique sur le sujet, c'est ce que tu disais, avec ces phénomènes d'algorithme qui peut exister, qui existent donc sur un média social comme Twitter, on peut avoir la popularité qui va mettre en avant un article sans qu'il y ait véritablement de discussion rationnelle derrière. On peut imaginer une situation comme cela. Donc merci pour ces compléments. Je vois que voilà, qu'on est content, ce sourire dans le studio. Donc pas d'autres arguments à ajouter. Très bien, bon, écoutez, je crois qu'il est temps de terminer à ce moment-là. Mais bravo à tous les trois pour votre présentation, pour vos travaux sur ce sujet.
Merci.
Alors on pourra réécouter votre intervention sur Graphite en allant chercher dans les podcasts de Graphite, graphite.net, et puis après sur l'instance Peertube à peri.tube. Venez aussi faire un tour sur librecours.net pour retrouver les supports du cours WE1, donc qui a lieu à l'UTC. Merci encore à tous les trois pour votre travail, et puis écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine pour les deux dernières présentations de ce semestre. Et puis d'ici là, bonne fin d'après-midi à Compiègne ou ailleurs, et à la semaine prochaine.